les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. Les jeudis de Lima. Un décryptage du monde arabe passé et contemporain par des chercheurs, journalistes, historiens, politologues et acteurs de la société civile.
Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Stora, historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, qui nous raconte son exil de Constantine à Paris. La rencontre est modérée par Naïma Yahi, historienne, chercheur associé à l'UMRIS, Université Côte d'Azur.
Je suis Naïma Hubert Yahi et je vais avoir l'honneur et le plaisir d'échanger ce soir avec Benjamin Stora. Et je vais situer ma parole, puisque vous ne me connaissez pas toutes et tous. J'ai eu le plaisir d'être l'une de ces nombreuses doctorantes, puisque mes travaux portaient sur l'histoire culturelle des artistes algériens en France. Et je partage en commun avec mon professeur l'Algérie, sauf que lui, il est arrivé en métropole et moi, j'y suis née de parents algériens. Je propose une présentation un peu courte du professeur, puisque vous le connaissez. Mais on peut rappeler qu'il est professeur émérite des universités, ancien inspecteur général également, qu'il est l'auteur de très nombreux ouvrages, plus d'une cinquantaine, dans différents genres, puisque, cher Benjamin, vous avez à la fois écrit des monuments de l'historiographie, notamment de la guerre d'Algérie, mais également de l'épistémologie de l'histoire et la mémoire, comme « La gangrène et l'oubli », où il venait d'Algérie, sa thèse d'État sur l'immigration algérienne, et bien évidemment ses travaux autour de la figure du nationalisme algérien, Messali El Hadj, le dictionnaire biographique également des militants nationalistes, et j'en passe, puisque ces travaux très importants vont marquer l'historiographie française et plus largement contemporaine. Aujourd'hui, c'est un récit plus intime qui s'inscrit dans de précédents ouvrages qui avaient déjà abordé votre vie militante et estudiantine, qui ont abordé aussi votre histoire familiale intime qui croise celle de la grande histoire des Juifs d'Algérie. Et là, aujourd'hui, vous nous offrez un récit qui, moi, m'a particulièrement touchée et m'a fait réfléchir sur cette circonstance particulière qui est celle de votre départ en juin 1962 en avion et non pas en bateau. On y reviendra. Pour cette France métropolitaine dont vous aviez rêvé, mais vous ne connaissiez pas. Et c'est à travers ce voyage, tel Ulysse, après ce long périple, qui va rencontrer ce pays qu'il habite, mais qu'il ne connaît pas, qui l'intrigue, mais qu'il va rencontrer, dans des circonstances qui sont à la fois douloureuses, qui sont en partie émaillées de moments de joie, de partage, de rencontres, mais aussi de défis à relever, et je pense que votre ouvrage revient en particulier sur certains qui sont communs à ceux qu'on a appelés de manière un peu générale les rapatriés, et parmi ces personnes, les Juifs d'Algérie qui ont une histoire singulière. Ces sujets, ce soir, on va les aborder, dans un contexte bien particulier, parce que, cher Benjamin, vous avez mis un rapport très important sur les questions coloniales et la guerre d'Algérie au président Macron en 2021, et vous animez aujourd'hui une commission mixte d'historiens franco-algériens. Vous continuez donc ce travail d'histoire, mais aujourd'hui, vous êtes aussi l'acteur de cette histoire et de cette relation franco-algérienne. Je parlais tout à l'heure de la gangrène et l'oubli. Aujourd'hui, on voit bien que ces problématiques autour des enjeux de mémoire et d'histoire continuent de traverser la relation franco-algérienne. Et dès les premières pages de l'ouvrage, cher Benjamin, on va commencer l'échange autour d'une phrase forte, puisque vous dites, page 11, « J'ai souhaité ici forcer le blocus de ces oublis que vous énumérez tout au long de ces premières pages introductives. » Alors, forcer le blocus de ces oublis depuis plus de 30 ans avec cet ouvrage majeur et aujourd'hui avec un récit intime, pouvez-vous nous parler de ce point de départ de votre récit ?
Merci Naïma pour cette présentation et ce résumé formidable de ce livre. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Je dirais qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps sur la question de mémoire, jusqu'au rapport remis au président de la République, dont on a beaucoup parlé. Mais là, cette fois-ci, je me suis beaucoup intéressé à l'oubli. Il y a une injonction de Freud dans un de ses livres qui dit « N'oubliez pas l'oubli ». C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas comprendre véritablement les plaies non cicatrisées des mémoires blessées ou douloureuses si on n'a pas d'abord oublié, quelque part. Et donc, ce livre, c'est d'abord, effectivement, et vous avez bien vu, c'est d'abord une réflexion sur comment et pourquoi j'ai pu oublier l'Algérie pendant si longtemps avant d'y revenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la fabrication de cet oubli, à la fois sur le plan personnel, bien sûr, mais sur un plan plus général dans la société française des années 60, et puis de réfléchir à partir de là sur les retours de mémoire. Là, c'est toute la fin du livre et donc, bien entendu, de notre échange. Sur le démarrage, disons, sur la question soulevée de l'oubli, il y a énormément de raisons qui font que l'oubli s'est imposé très vite. D'abord parce que nous partions avec mes parents, j'avais 12 ans, nous partions d'un pays, surtout à la fin de la guerre d'Algérie, qui était quand même déchiré par une guerre terrible. Nous étions confinés dans la belle ville de Constantine. Tout le monde était confiné d'ailleurs, il y avait des militaires partout, beaucoup d'attentats de l'OAS, beaucoup de gens tués, beaucoup de barrages partout, beaucoup de checkpoints on dirait aujourd'hui. Et donc on partait en fait par camion militaire, donc c'était un pont aérien qui avait été organisé, puisque Constantine n'est pas une ville de bord de mer, c'est une ville de l'intérieur, donc nous sommes partis par un pont aérien organisé par l'armée française, donc à partir de l'aéroport de Telerma, qui est une base militaire, qui est toujours d'ailleurs une base militaire aujourd'hui en Algérie. Et c'est un départ difficile parce que mon père n'avait pas prévu ce départ, n'avait pas anticipé ce départ, dans la mesure où il comptait rester en Algérie. Il avait fait ses études en langue arabe avec Albert-Paul Lantin. Il avait passé son baccalauréat en arabe littéraire classique et il avait un diplôme, comme je le dis, dans tout ça et dans le livre, il avait placé son diplôme à l'université d'Alger en droit musulman. Donc la charia qui fait si peur aujourd'hui. Donc il était diplômé de droit musulman, il parlait bien sûr l'arabe littéraire. Ma mère, bien sûr, appartenait à une vieille famille de bijoutiers juifs de Constantine. Et mon père n'avait pas prévu, parce qu'il était aussi ami avec Ferhat Abbas, il n'avait pas prévu de partir. Mais les circonstances, la tragédie, l'engrenage, le sang versé, la peur, c'est-à-dire la communauté des peurs qui s'installe lorsque vous voyez partir les gens les uns derrière les autres, que les immeubles se vident les uns derrière les autres, alors la peur s'empare, disons, des personnes qui sont là. Et à partir de là, on est parti dans la précipitation sans anticiper véritablement. Alors c'est important parce que ça veut dire qu'on n'est pas parti avec ce que j'appelle dans le livre un cadre en bois. Alors, le cadre, ça, tous ceux qui ont été, entre guillemets, rapatriés connaissent ce mot célèbre du cadre. Le cadre, c'était une espèce de cadre en bois où on entassait ce qu'on pouvait entasser, on partait avec par bateau. Là, il n'y avait pas de cadre. Donc on ne pouvait partir qu'avec deux valises chacun, ma sœur, moi, mon père et ma mère. Mais on ne pouvait pas mettre grand-chose dans les valises, donc on est parti habillé avec nos manteaux, bien entendu. Alors qu'à Constantine, le 12 juin, il fait très très chaud hein, quand même. Donc on est parti très chaudement habillé. Et on a attendu longtemps et on a embarqué et on est parti dans cet avion, donc de manière précipitée. Cette question, disons, d'un départ précipité explique aussi en grande partie l'oubli. C'est-à-dire le fait de ne pas regarder derrière soi.
Ne pas structurer le récit de soi
voilà, ce moment-là. Absolument. C'est ce que je dis à un moment donné, je crois, dans le livre. Je n'ai pas gardé le souvenir de la dernière image. C'est très souvent dans les récits de la nostalgérie, il y a toujours la dernière image qu'on garde du pays, etc. Mmh. Moi, il n'y a pas de dernière image. Je veux dire que dans l'avion, la nuit est tombée très vite, il n'y a pas de dernière image et le pays a disparu très vite. Le pays a été enseveli très vite dans ma mémoire, de manière très rapide, parce qu'il fallait aussi partir d'une situation de peur de mon père qui pouvait être... assassiné, voilà. Quand on est enfant de 12 ans, préadolescent, on n'a pas tellement peur pour soi, mais on a surtout peur pour ses parents, de ce qui risque de leur arriver, etc. Donc il y avait quand même cette peur qui s'était emparée de moi depuis un an ou deux. Moi, je n'allais plus du tout au lycée, évidemment. Hein. J'étais en sixième à l'époque. Bon, donc plus du tout de passage par le lycée. Donc l'enfermement à l'intérieur des appartements, etc. Donc, par conséquent, l'oubli vient du fait qu'on s'arrache à quelque chose d'indécis, quelque chose de un peu terrifiant, quelque part, pour aller vers, effectivement, un pays rêvé qu'on ne connaissait pas. Et ce pays s'appelait la France. Alors ça, c'est le truc extraordinaire que j'essaie de raconter dans le livre, c'est que nous étions des Français sans connaître la France. Donc nous étions des Français, pourtant nous étions des étrangers, en fait, ou des immigrés, sans le dire. C'est tout le paradoxe, disons, de cette situation, c'est-à-dire à la fois, disons, de s'arracher à une terre algérienne pour aller vers un pays, la France, en étant français, sans connaître, disons, ce qu'est la France, mais en ayant la citoyenneté française, ce qui fait toute la différence avec un immigré, par exemple. Mais on arrivait dans un pays en 62 où j'ai su bien plus tard que des immigrés algériens en France étaient là depuis 15 ans avant nous. C'est-à-dire que quand plus tard, lorsque dans les années 1980, 90, j'ai milité, etc., j'avais des gens de mon âge et qui, en fait, avaient une familiarité avec la citadinité parisienne beaucoup plus forte que moi. Donc c'était un truc assez paradoxal, alors que eux, bien sûr, se revendiquaient de l'immigration algérienne en France.
Qui fait le récit du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'Afrique à l'Europe, vous dites très vite, page 50, que la question, donc, dans ce chapitre où vous êtes réfugié ou français, point d'interrogation, vous parlez d'une zone grise. Cette zone grise, elle se situe à différents niveaux. Vous abordez la question de votre identité juive en tant que rapatrié. Vous posez la question très vite de l'étrange étranger, celui de l'accent, celui du rapport à la ville, au rapport au monde, de la langue, que vous devez gommer comme tous ceux qui tentent cette aventure de l'exil. Vous parlez même d'un exil occidental. Comment le jeune Benjamin, qui paradoxalement arrive dans un quartier huppé, puisque vous décrivez cet espace de fortune qui est le premier habitat dans le 16e arrondissement, comment compose le jeune Benjamin avec ses identités multiples d'être un exilé de l'intérieur dans son propre pays qu'est la France, produit de l'histoire des Juifs d'Algérie?
Disons que c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un qui arrive comme ça à l'âge de 12 ans, 13 ans, etc., de se repérer dans un monde qu'on ne connaît pas et qu'on croit connaître. C'est ça, y a un trouble, hein, je veux dire. Il y a une espèce de précarité qui s'instaure. D'autant que nous, on venait d'un quartier à Constantine qui était un quartier judéo-musulman. C'était où les gens parlaient beaucoup l'arabe dans les rues. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été élevé en langue arabe par ma mère, bien sûr. C'était une particularité de Constantine par rapport à Alger et Oran. Alger et Oran étaient des villes européennes, essentiellement. Les gens ne connaissaient pas l'arabe. Hein. Enfin, je parle des Français, Français-Français. Hein. Ce qui n'était pas le cas de la ville de Constantine. La ville de Constantine, il y avait une tradition judéo-musulmane qui s'exprimait, par exemple, à travers la musique. Il y avait des grands musiciens, juifs, qui chantaient le malouf, etc. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a, par exemple, les frères Nakache qui continuent à jouer, qui sont de Constantine. Bon. Donc, il y avait une grande tradition judéo-musulmane à l'intérieur de cet espace particulier. Et donc, j'ai été littéralement projeté dans le 16e arrondissement. Alors, vous me direz, mais pourquoi le 16e arrondissement ? C'est parce que mon père avait connu pendant la guerre un Anglais, en 1943, et qui lui avait dit un jour, si tu as des problèmes en France, fais-moi signe, parce que moi, j'ai un petit endroit à Paris, désaffecté, une sorte d'espèce de garage désaffecté. Et si un jour, il y a des problèmes, ben, appelle-moi. Et mon père l'a appelé. Et donc, on s'est retrouvé dans une sorte de garage désaffecté, rue de Livette, dans le 16e arrondissement, pendant 2 ans. Donc, je suis passé, disons, d'un quartier, le Chara judéo-musulman de Constantine, à la rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement de Paris, où tout est vraiment très silencieux, où tout est vraiment très polissé.
On parle moins fort.
Beaucoup, beaucoup moins fort, où tout est polissé. Et puis, on est arrivé dans une situation incroyable, c'est que c'était les vacances. Donc, les rues étaient désertes. Alors bon, c'est vrai que les rues étaient désertes à la fin, à Constantine. Mais moi, j'avais connu surtout les rues très, très animées quand même, hein, les rues bondées. Hein, au début des années 50, évidemment. Donc tout le monde était désert. Donc je me demandais où étaient passés les Français, d'ailleurs. Je me disais, mais c'est quoi ce pays où les gens n'existent pas, quoi ? Ça faisait un peu ville fantôme. Parce qu'on est arrivé en mois de juillet. C'était les vacances. Hein, tout le monde est parti, normal. Et en plus, le 16e, c'est encore plus désert. C'est encore plus
toujours,
calme.
Toujours, effectivement.
Encore plus frais, plus calme, plus désertique, etc. Et donc forcément affecté dans un lycée qui va être le lycée Janson de Sailly. Donc, arrivé au lycée Janson de Sailly, là, ça a été aussi le choc, parce que c'est la découverte d'un antisémitisme européen que je ne connaissais pas. La France des années 60, lycée Janson de Sailly, très anti-gaulliste, très antisémite, très radical, en fait, hein, avec des gens qui étaient en terminale et qui appartenaient toujours à l'OAS, d'ailleurs. Hein, bon, en 62, je parle de l'année 62, 63, 64, 65. Bref. Une situation où tout d'un coup, on est renvoyé à son altérité, renvoyé à sa différence radicale, quoi. Là, on est dans la différence radicale, à la fois différence de quartier, différence de langue. Il faut gommer l'accent, refouler la langue arabe. Donc, ce qu'on appelle l'assimilation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut apprendre très vite à se tenir silencieux dans un espace réservé et de progresser le plus vite possible dans le rôle qu'on vous a assigné, c'est-à-dire l'école, réussir immédiatement et le plus rapidement possible la trajectoire scolaire.
Sur cet aspect, vous évoquiez tout à l'heure les enjeux de l'oubli, les circonstances de votre oubli. Moi, j'aimerais vous entendre sur un sujet que vous abordez dans l'ouvrage, c'est celui de la langue. Vous parlez de le bain culturel arabophone qui a été le vôtre. Vous avez parlé arabe dans votre tendre enfance. Quel a été le rapport à la langue arabe à votre arrivée et quel rapport vous avez entretenu ensuite avec la langue arabe ?
Alors, la langue arabe, c'est un rapport très particulier parce que y a des expressions en arabe qui sont intraduisibles en français et que j'ai envie d'utiliser tout le temps. Ça, c'est ça le problème. Mais c'est vrai que la langue arabe est très poétique, en fait. Mmh. Et donc, quelquefois, un mot, deux mots, trois mots signifient presque trois phrases. Je veux dire, en langue française, et inversement, il y a une très grande richesse aussi de la langue française qui est très difficile à comprendre quand on passe à la langue arabe. Donc, il y a un va-et-vient. Mais moi, c'était la langue arabe qui n'était pas celle de mon père, mais plutôt celle de ma mère. Vous voyez que c'est encore compliqué parce que c'est un couple mixte. Parce qu'en fait, mon père connaissait l'arabe littéraire, alors que ma mère connaissait l'arabe de la rue. Donc, elle ne savait pas lire l'arabe, ma mère, comme moi, d'ailleurs. Moi, je ne savais pas lire l'arabe. Hein. Par contre, je savais lire l'hébreu, mais je ne comprenais rien en hébreu. Je connaissais le français. Non, moi, tout ça est compliqué à mort. C'est-à-dire qu'en fait, je lisais l'hébreu
sans
comprendre un mot. Donc, j'annonnais comme
les prières, par exemple.
Les prières, tout par cœur, bien entendu. Bien sûr, apprise à l'Alliance israélite universelle de Constantine. Bon, tous les enfants juifs de Constantine se rendaient. C'était obligatoire. Hein, bon. Et ils annonnaient. En face, il y avait une école coranique qui annonnait aussi.
Sur les mêmes planches.
Tout le monde annonnait. Quoi. C'était, voilà, avec la même liturgie, d'ailleurs. Hein, c'était assez extraordinaire. Donc, la même sonorité liturgique, etc. Mais par contre, je ne comprenais pas. Bon. Je comprenais l'arabe, mais je ne le lisais pas. Bon. Donc, heureusement que le français est arrivé, parce qu'à partir de là, je parlais et je lisais. Ah, enfin, j'arrivais dans un moment où je pouvais lire et comprendre. Donc, sur ces trois espaces très particuliers de la langue, mais c'est très important, effectivement, la question de la langue. Parce que il faut la refouler, bien sûr.
Justement, là, sur cette question, ce n'est pas une question que vous traitez dans le livre, mais j'ai envie de vous l'imposer. Est-ce que paradoxalement, vous ne seriez pas devenu, pas forcément juridiquement, mais en tout cas algérien, au sens géographique, en venant en France métropolitaine ?
C'est pas impossible de considérer sous cet angle-là, cette question-là. Ce que vous me dites, ça me fait penser à un passage des mémoires de Messali, que sur les Messali Hadj, bon, que j'ai travaillé il y a 40 ans. Parce que je me suis aperçu, par parenthèse, cette année, en classant mes papiers, que j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise sur Messali en 1974, sous la direction de Jean-Pierre Rioux et René Raymond. 1974-2024, 50 ans.
C'est beau.
Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand j'avais regardé ces mémoires de Messali en français et en arabe, il disait une chose, il disait que c'est quand j'ai fait mon service militaire, quand je suis arrivé en France, c'est Messali qui écrit ça dans ses mémoires, Quand je suis arrivé en France, en 1917, je crois, 1918, j'ai découvert que j'étais algérien. C'est dans les mémoires de Messali. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai découvert les gens qui pensaient comme moi. J'ai découvert des gens qui parlaient comme moi. J'ai découvert des gens qui mangeaient comme moi. Et c'est là que je me suis aperçu que j'appartenais à un espace beaucoup plus vaste que mon quartier. Parce qu'en fait, fondamentalement, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais ceux qu'on appelait ensuite les Juifs, les Pieds Noirs, les Rapatriés, tout ce qu'on veut, mais j'allais presque dire les Algériens aussi, ils connaissaient leur quartier, ils connaissaient leur ville. Mais ils ne connaissaient pas, par exemple, les gens de Constantine, ne connaissaient pas le désert, ne connaissaient pas le Mzab, ne connaissaient pas la Kabylie, très peu, connaissaient très peu Alger. Et inversement, on peut inverser les choses comme ça. C'est-à-dire que tous les gens, je m'en suis aperçu, ça c'est quand j'ai fait l'Algérie vue du ciel avec Yann Arthus Bertrand, et qui m'a demandé de légender les photographies de l'Algérie vue du ciel. Et à ce moment-là, je me suis aperçu, lorsqu'on faisait des séances de signature, que chaque groupe de mémoire venait regarder son quartier, mais sans connaître pas du tout les autres. Alors il venait signer sur le quartier. Je dis, attendez, au moins la ville quand même, faut quand même, bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la petite patrie. C'est-à-dire le truc vraiment
petit
de... Le petit pays, vraiment. Et donc, par conséquent, c'est vrai, la question que vous soulevez est très, très juste. C'est vrai qu'en arrivant en France, l'espace s'élargit. D'abord, Paris est une ville immense par rapport à la ville de Constantine. Donc, les avenues sont déjà beaucoup plus larges, plus grandes. Et donc, il y a une espèce d'horizon qui s'ouvre, qui est tout à fait extraordinaire. Surtout quand on a 12, 13, 14 ans, ça, c'est évident. Hein. Et on a, par conséquent, le sentiment... dans l'étrangeté, d'appartenir à quelque chose d'autre. Mais c'est beaucoup plus tard, par l'étude et par les réflexions, que j'ai pu me rattacher davantage à l'Algérie. Sur le moment, non. Pour être très précis, sur le moment, non. Il fallait rompre, il fallait avancer. Mmh. Sur le moment, c'était comme un petit peu mes parents qui sont arrivés en France très âgés, parce que ma mère avait 46 ans, mon père avait 53 ans. Donc ils étaient âgés, ils étaient vieux. Donc il leur fallait, eux, non pas se rattacher à l'Algérie, à l'histoire, à je sais pas quoi, enfin la nostalgie, tout ça. Non, il leur fallait trouver du travail et trouver un logement. C'était ça la priorité. Et moi aussi, je la partageais, cette priorité, parce qu'il fallait qu'on sorte de cette espèce de trou dans lequel on vivait, dans le 16e, mais c'était un vrai trou, hein, vraiment le Paris des années 50, terrible. Donc il fallait sortir de ça, et on a fini par en sortir par le HLM, qui est arrivé en 1964-65 à Sartrouville. Et donc, ça a été l'élévation, disons, entre guillemets, sociale, par le passage au HLM.
Page 76, vous parlez d'un blackout sur l'Algérie carrément, et vous parlez d'un état d'amnésie volontaire où le jeune Benjamin cultive une Algérie secrète qui n'est plus partagée avec les copains de Janson et plus tard le lycée Roby. À Saint-Germain-en-Laye, un autre espace social qui est loin du vécu du jeune homme du HLM de Sartrouville. Et cette Algérie secrète, j'ai envie de vous interroger sur son devenir quand vous passez un peu plus loin dans l'ouvrage à cette vie bouleversée par mai 68. Comment ressurgit cette Algérie secrète chez le jeune révolutionnaire chevelu que vous étiez?
Le droit de le dire. Oui, non, bien sûr. Les photos sont terribles. Mais
elles sont dans le livre, les photos terribles,
vraiment. Là, on a sauté de 62 à 68. C'est dommage parce que pendant ces 5 ans seulement, ou 6 ans, c'est pas grand-chose. Effectivement, l'Algérie a disparu en France pour des tas de raisons. Bon, elle a disparu de l'espace public pour des raisons politiques d'abord. Il faut pas l'oublier parce qu'il y a eu, les lois d'amnistie en France, hein, voulues par le général de Gaulle, qui ont amnistié... tout ce qui s'était passé pendant la guerre d'Algérie pour tout le monde. Donc il n'y a aucun procès possible, aucune façon de poursuivre en justice quiconque. J'ai raconté toute cette aventure des amnisties et des amnésies dans La gangrène et l'oubli, il y a 30 ans. Donc c'était les amnisties qui ont favorisé l'amnésie, bien entendu. Dans l'espace public, les partis politiques qui existaient avaient intérêt à ne pas se souvenir de l'Algérie, parce que tous avaient eu des conduites pendant la guerre d'Algérie qui n'étaient pas...
problématiques.
Qui étaient très, pour ne pas dire plus, oui. Qui avaient eu des conduites pas terribles. Hein. Bon, alors évidemment, il y a toujours des personnages français qui sauvent l'honneur, comme on dit. Hein. Bon, on connaît maintenant bien les parcours de Gisèle Halimi, bien sûr, de Michel Rocard. Je ne vais pas citer tous ces personnages, Roland Dumas, etc., etc. Mais la classe politique dans son ensemble, pratiquement... n'a pas vu venir l'indépendance de l'Algérie. C'est pas vrai. Je veux dire qu'elle était pour des améliorations, pour améliorer les conditions sociales, etc. Mais elle n'a pas vu venir le nationalisme algérien. C'est-à-dire que le nationalisme français n'a pas vu arriver le nationalisme algérien. Ça, c'est, pour moi, c'est évident. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu cette volonté d'effacer tout ça, enfin, de recouvrir tout ça, hein, pour ne pas avoir à traiter de sa propre attitude de la guerre elle-même, et donc d'avancer. Puis, d'autre part, on est dans une société des années 60 qui est une société où règne le plein emploi, une société de la consommation, une société de la vitesse extraordinaire, du changement radical au niveau de tout, des vêtements, de la musique, de la culture, du logement, de tout. C'est-à-dire qu'on a une société qui vit en situation d'accélération radicale. Et cette accélération radicale, qui est très, très entraînante, qui donne le vertige, fait que, précisément, on oublie plus facilement, je veux dire, l'Algérie. Donc il y a à la fois un oubli par le haut, c'est-à-dire voulu par l'État. Le général de Gaulle, je pense, a voulu rééditer ce qu'il avait fait en 1945, c'est-à-dire on efface tout et on avance. Hein. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Et il a essayé de faire la même chose pour l'Algérie. Donc un oubli par le haut, mais il y a un oubli aussi par le bas, c'est-à-dire de la société elle-même. Il ne faut pas oublier que les Français, dans le fond, étaient entrés en guerre depuis 1939. 39, 43, 45, 46, l'Indochine, 54, l'Algérie, Madagascar, 47. En fait, ça n'arrêtait jamais. Il y avait tout le temps des histoires de guerre, proches ou lointaines. Et puis tout d'un coup, voilà que l'indépendance de l'Algérie arrive en 62, avec la fin de l'Empire, pratiquement. Et tout d'un coup, la France redécouvre qu'elle n'est plus en guerre. Mais la guerre, elle avait commencé en 39, en fait. Quand on y pense, parce que 39-40, c'est tout le contingent qui part à la guerre, bien entendu, mais c'est tout le contingent qui part à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des millions, 1,5 million de jeunes Français qui sont partis en Algérie. Donc c'est colossal. Donc lorsque l'indépendance de l'Algérie arrive, il y a cette volonté en bas de la société, tout simplement, de dire, bon, on tourne la page, c'est fini, on sort de la guerre. Alors, par parenthèse, d'ailleurs, d'un autre point de vue, sous un autre angle, du point de vue des Algériens aussi, lorsque l'indépendance de l'Algérie est obtenue et que la victoire est là, la question centrale, c'est d'avancer aussi. Parce que, bon, évidemment, il y a le problème des disparus, il y a le problème, disons, des traumatismes causés par la guerre. On y reviendra s'il y a des questions. Mais fondamentalement, l'essentiel aussi, c'est d'avancer vers la paix. C'est-à-dire de... Donc, la question de l'oubli, c'est aussi... Elle s'inscrit dans cette volonté-là d'avancer coûte que coûte. Et donc d'essayer de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder dans le rétroviseur, parce que sinon, ça risque, disons, le travail de deuil risque de faire mal, quelque part. Et donc on avance très, très vite comme ça. Et on se retrouve dans une situation où lorsque, effectivement, 68 éclate, moi j'ai 17 ans, évidemment, mais lorsque 68 éclate, ce n'est pas l'Algérie qui me motive dans l'éclatement de 68, c'est le Vietnam. Ma génération, à la limite, elle est plus centrée sur la guerre du Vietnam, d'abord, centrée, bien sûr, sur ce qui s'est passé l'année d'avant avec la mort de Che Guevara, donc l'Amérique latine, et la question palestinienne. C'est-à-dire que ces trois questions, ce qu'on appellera la tricontinentale, c'est-à-dire, en fait, ce qui est fondamentalement... le Vietnam, la question palestinienne et la question latino-américaine, qui mobilise sur le plan international, par parenthèse, beaucoup plus que sur le plan national. C'est-à-dire que la jeunesse qui se mobilise à cette époque-là, elle est beaucoup plus en prise avec les problèmes internationaux que des problèmes strictement nationaux, pour une raison d'ailleurs qui est simple, c'est qu'il y a le plein emploi aussi, il faut regarder les choses en face. Bien, fermons cette parenthèse. Donc on a par conséquent cette dimension, disons, de l'international, qui fait qu'on ne fait pas le lien, disons, avec la génération algérienne, alors qu'elle est toute près, elle est toute proche, la génération algérienne. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés en politique par la guerre d'Algérie, c'est 5 ans avant, c'est rien. Et je donne cette anecdote, je ne sais pas si j'en parle dans ce livre, où la première manifestation de rue que je fais en étant lycéen, quand je descends de ma lointaine banlieue vers Paris, on arrive, il faisait nuit, c'était du côté de Jussieu, et c'était au moment où la Sorbonne était encerclée par les CRS, et donc les étudiants réclamaient la réouverture de la Sorbonne, etc. Et donc on s'est retrouvé, je me suis retrouvé dans cette manifestation, il faisait nuit, et les premiers rangs de la manifestation, qui donc les gens étaient plus vieux, et donc les leaders, entre guillemets, politiques, qui dirigeaient cette manifestation, il y avait beaucoup de lycéens derrière, se sont mis à scander « Sharon, Sharon ». Et personne n'a repris, parce que tout le monde s'est retourné en disant « C'est quoi Sharon ?» C'est-à-dire pour les lycéens qui étaient dans la rue en 68, les leaders politiques qui leur faisaient, disons, comment dirais-je, une sorte d'apprentissage accéléré du politique, n'avaient pas saisi que l'Algérie était déjà loin. Elle allait revenir, l'Algérie allait revenir, bien sûr, mais qu'à cette époque-là, à ce moment-là, l'Algérie était déjà loin et que Sharon s'est tourné. Par contre, le mot d'ordre qui a pris, et c'est ça qui est extraordinaire dans les retours de mémoire, c'était celui de CRS-SS, donc la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'était la filiation avec la résistance et la Seconde Guerre mondiale, mais pas avec l'opposition anticoloniale de la guerre d'Algérie, qui n'est arrivée que bien après, ce qui est arrivé après coup.
Donc c'est le phénomène habituel de la mémoire qui saute une génération,
oui,
et qui vient s'emparer de celle des petits-enfants.
Oui.
Qui vont tout demander à
exactement
ouvrir le chapeau de l'histoire,
exactement,
et de la mémoire. Sur ce, sans rentrer dans le détail de votre formation intellectuelle, notamment, puisque vous y revenez dans un autre ouvrage, mais aussi dans celui-ci, autour du trotskisme, vous avez, en écho à votre jeunesse politique et militante, vous nous faites la confidence de vous engagé dans le métier d'historien plus par nécessité que par vocation première. Peut-être en dire un mot ?
Oui, le problème que j'ai eu, c'était le déclassement social de mes parents. C'est-à-dire que mes parents, en Algérie, n'étaient pas fonctionnaires. Mon père vendait de la semoule, ma mère ne travaillait pas. Et quand ils sont arrivés en France, ils se sont retrouvés au chômage. Et donc mon père a quand même réussi à trouver un boulot dans une compagnie d'assurance. Et ma mère est rentrée en usine. Elle a travaillé comme ouvrière d'usine à l'usine Peugeot à la Garenne-Besançon. Et donc, ils n'étaient pas protégés socialement. On avait vécu dans cette précarité sociale. Alors, il y avait la précarité identitaire, mais il ne faut jamais oublier la précarité sociale. Ce qui fait que moi, en vieillissant, entre guillemets, l'obsession qui était la mienne, c'était de me faire protéger par l'État. Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps que je devenais un révolutionnaire qui voulait détruire l'État, il fallait que l'État me protège encore. Mais ça, c'est classique, hein, comme truc. C'est-à-dire que, ayant vu la chute sociale vertigineuse de mes parents, comparée à d'autres de mes cousins, parce que j'ai quand même 40 cousins germains, qui, eux, avaient des parents qui étaient dans la fonction publique et qui avaient continué leur vie. Mes parents, non. Donc, à partir de là, je me suis dit, moi, je veux être fonctionnaire. Donc, c'était grosse ambition.
Voilà.
On sent le mec vraiment plein d'ambition. C'est-à-dire, je veux être fonctionnaire, c'est-à-dire, je veux être enseignant, parce qu'au moins, j'aurais la possibilité d'avoir un salaire de l'État qui tombe régulièrement. Donc mon premier mouvement, pendant longtemps, ça n'a pas été celui de la recherche, hein, mais ça a été celui d'avoir un travail fixe avec des concours fixes qui permettent d'avoir un salaire fixe. C'était ça l'obsession. C'est plus que la carrière intellectuelle, universitaire, etc. Il se trouve que dans le choix que j'ai eu et la chance que j'ai eu de travailler sur l'Algérie grâce en particulier à René Raymond et Jean-Pierre Rioux, que j'ai eu cette chance extraordinaire d'arriver sur un territoire qui était entièrement vierge, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chercheurs de ma génération, ça n'existait pas. Donc, et là est venue l'excitation du chercheur. Mais le point de départ, ce n'était pas ça. Le point de départ, c'était entrer dans la fonction publique. D'ailleurs, j'ai toujours été jusqu'au bout, hein, jusqu'à la retraite, toujours fonctionnaire. J'ai fini inspecteur général de l'éducation nationale. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux dans le parcours. Je veux dire, le mec qui va jusqu'au bout de la trajectoire, etc. Et sans aller au CNRS, d'ailleurs. Hein, mais toujours l'enseignement, quoi.
Moi, j'ai une question que tout le monde se pose. Benjamin Stora, est-ce que vous croyez au Mektoub ? On veut savoir. La France veut savoir. Le Mektoub, parce que l'Algérie, puisque tout à l'heure, vous nous parliez de l'oubli, le fonctionnaire en devenir, l'historien qui, en toute transparence, nous dit que la sécurité de l'emploi l'attire d'abord avant que la passion le rattrape, vous revenez à l'Algérie et par la grande porte, puisque vous devenez très vite dans vos jeunes années de formation dans la recherche, vous rencontrez l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Et pour vous, est-ce le Mektoub ?
Oui, c'est le Mektoub, bien sûr. Mais parce qu'en étant trotskiste, il se trouve que j'ai appartenu à une formation politique qui avait soutenu les nationalistes algériens, qui avait soutenu les révolutionnaires algériens. Et donc, par conséquent, le Mektoub, il est là. C'est-à-dire le fait d'être à la fois celui qui s'engage politiquement, fait de la recherche, tombe sur des vieux militants algériens, tombe sur des archives extraordinaires de ces vieux militants déjà à l'époque, qui ne veulent pas donner leurs archives à l'État algérien, qui les gardent. C'est des vieux militants, soit qu'ils étaient à la Fédération de France du FLN, soit qu'ils étaient au MNA, c'est-à-dire le parti de Messali. Et donc, étant donné que dans les années 70, personne ne s'intéressait à eux, fondamentalement, hein, tous ces vieux militants, etc., donc je suis allé les voir. Et puis j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer des gens qui étaient eux-mêmes aussi des exilés de l'Algérie, mais d'un autre côté, la fille de Messali, bien sûr, enfin la fille... Et le frère, la fille et le fils de Messali qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont transmis les mémoires de Messali. Mais c'est aussi l'époque où j'ai rencontré aussi Naït Ahmed, avec qui je suis devenu très ami, que j'ai rencontré Mohamed Boudiaf, parce qu'il y avait des gens à Paris 8 qui avaient fondé une antenne du PRS à Paris 8. Je ne peux pas citer tous les noms hein, des gens que j'ai rencontrés à cette époque-là, qui étaient tous dans l'opposition, bien entendu. Ils étaient tous radicaux, dans l'opposition. Il y avait le printemps berbère de 1980. Naturellement, j'étais militant. Et donc, en étant militant, bien sûr, ils m'ont fait confiance. Et donc, ils m'ont transmis leurs archives. J'ai recueilli beaucoup de témoignages. C'est à cette époque-là que je suis devenu très ami avec Ali Haroun, avec Omar Boudaoud, bon, qui étaient les responsables de la Fédération de France, mais aussi des gens du MNA comme Mohamed Maroc, mais aussi comme Mustapha Negro, c'est Mustapha Ben Mohamed qui est devenu ensuite le président du Sénat, mais aussi Bouhara, qui lui-même deviendra le bras droit de Boumdiène, etc., 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 etc. Ce qui fait que, par mon engagement en tant que jeune militant, j'avais pu accéder, c'est la chance que j'ai eue, elle est extraordinaire, à toutes ces mémoires, disons, algériennes, qui étaient des mémoires exilées, en fait. Et les gens vivaient en France à cette époque-là, dans l'opposition, FFS, PRS, enfin, j'en passe. Et donc, à partir de là, la biographie de Messali, ensuite de Ferhat Abbas, s'est imposée comme quelque chose de naturel. Donc là, le Mektoub, il est là, je veux dire, dans l'engagement politique. Mais ce n'est pas un hasard, parce que l'engagement trotsky, ce n'est pas un hasard non plus, parce qu'en fait, c'était un engagement à contre-courant, quelque part. Ce n'était pas à l'époque. C'est-à-dire que c'était un engagement qui n'était pas dans le sillage des organisations traditionnelles dominantes qui vont ensuite prendre le pouvoir en 1981. C'est-à-dire que j'étais déjà dans le contre-pouvoir, quelque part. Donc la chance étant que j'étais dans le contre-pouvoir, je pouvais rencontrer effectivement des militants qui étaient eux-mêmes dans le contre-pouvoir et qui étaient eux-mêmes en exil.
Sur cet aspect du Mektoub provoqué par le jeune militant, il y a une question qu'on vous pose encore aujourd'hui en 2024 et qui peut éclairer nos échanges. Comment vous, issu d'un groupe mémoriel rapatrié juif d'Algérie, vous avez pu investir, est-ce qu'on peut dire le camp d'en face, en tout cas ceux qui ont porté cette révolution algérienne, cette guerre d'indépendance, et comment eux ont pu trouver en vous un interlocuteur légitime, sachant votre trajectoire personnelle et familiale. Parfois, on vous dit, oh, lui, c'est Hezb FLN, l'autre, il vous dit, c'est... On vous taxe de tous les camps, de tous les côtés. Vous qui êtes un... Voilà, qui aujourd'hui nous propose un ouvrage d'égo-histoire, mais quand même d'histoire, un peu dans ce qu'avait pu défendre le chercheur Tsvetan Todorov. Et j'ai envie de vous entendre là-dessus et peut-être profiter de ce récit plus intime pour comprendre comment ce que l'on renvoie comme identité peut interférer ou pas dans nos objets d'études, dans nos objets de recherche.
Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui m'a fait revenir, entre guillemets, à l'Algérie et rencontrer tous ces personnages, c'est d'abord l'engagement révolutionnaire, c'est la révolution. Ce qui m'a intéressé quand j'ai rencontré aussi, bien sûr, Mohamed Darbi, hein, qui venait de sortir aux origines du FLN et les archives de la révolution algérienne, donc ça c'est quand même très important. C'est-à-dire c'est d'abord par la politique et d'abord par l'engagement révolutionnaire que je retourne à l'Algérie. Pour moi, c'était ça. Le retour se fait pas par l'identité, il se fait par la politique et par l'universalisme de la révolution, en fait, qu'on pouvait comparer à l'époque à la révolution française, d'ailleurs, ou la révolution russe. Parce que moi, j'étais pétri, j'étais quasiment un petit russe.
Un jeune bolchevique.
Ouais, je connaissais. Une fois, j'avais rencontré comme ça des Russes blancs quand j'étais à Rabat, et j'ai commencé à parler avec eux. Je commence à parler avec eux de la Russie, je me dis, mais c'est pas possible, tout ce que vous connaissez sur la Russie. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'en connaissais un rayon, forcément, puisque j'avais milité pendant 15 ans dans une organisation qui était rattachée à l'Internationale communiste. Donc, Plekhanov, Radek, Rakovski, Boukharine, Zinoviev, Kameniev, enfin, j'en passais des meilleurs. Je connaissais tout ça très bien.
Vous donnez quelques listes
de lectures dans l'ouvrage. Voilà, je donne toutes les lectures classiques de cette époque-là. Donc, d'abord, c'est la Révolution qui fait que je m'intéresse à l'Algérie. Puis alors, après, bien sûr... dans cette révolution, je m'aperçois très, très vite que l'explication par la matrice idéologique qui emprunte uniquement à la lutte des classes ne suffit pas. Pourquoi ? Et là, c'est le vécu qui apparaît. C'est-à-dire que tout d'un coup, je sais qu'il y a la question coloniale, je sais que la question de la sortie du système colonial aboutissait de manière quasi inévitable à la question de la guerre et de la lutte armée, mais je sais aussi... que cette vie révolutionnaire, elle est aussi une vie communautaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement une vie qui est celle d'un opprimé, mais celle d'un acteur dans une dimension communautaire. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, et j'ai toujours gardé ce point de vue, ce qui m'intéressait, ce n'était pas le point de vue victimaire, mais c'était le point de vue des acteurs qui me fascinaient. C'est-à-dire de gens qui refusaient le destin qu'on avait voulu leur tracer. Et qui décidait de le prendre en main. Dans le fond, c'était mon histoire, beaucoup plus jeune.
Vous le dites, donc, page 170, vous vouliez passer de victime.
Oui.
Vous dites, de victime, je deviens acteur.
Oui, parce que mes parents étaient des victimes. Tandis que moi, je ne voulais plus être victime. Je voulais être un acteur. La nécessité de la transformation radicale, elle vient de là. C'est-à-dire d'être un acteur et de pas celui qui se plaint en permanence, qui accuse les autres, qui pleure tout le temps, etc. C'était pas du tout ça. Or... quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire très, très particulière, ce que j'ai vu en faisant ce dictionnaire biographique, parce que j'ai fait un dictionnaire tout seul, de biographique, de 600 militants algériens, hein, qui est sorti en 1985, ce qui m'avait incroyablement fasciné, c'était le fait que tous ces hommes, très jeunes pour la plupart à l'époque, avaient décidé d'être des acteurs. Et pas des gens qui font porter la responsabilité sur le colonialisme, les je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi, qui disaient non, nous, on part, on avance, on marche avec ce qu'on a. Avec le bricolage qui est le nôtre, on avance. Comment on fait pour avancer ? Comment on sort de cette situation ? C'est ça qui m'a intéressé. Et ça m'est revenu en mémoire, effectivement, cette sorte de vécu en Algérie. Et c'est là que le vécu réapparaît. C'est-à-dire qu'il y a des liens, disons, qui sont beaucoup plus forts que les matrices idéologiques, ou plutôt ne peuvent être complétés que sur le plan personnel par les matrices idéologiques. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc à partir de là, l'Algérie revient. C'est-à-dire que l'Algérie que moi, je commence à comprendre et à connaître, qui était transmise par mon enfance, était une Algérie qui était, à la différence de ce qu'expliquaient à l'époque les marxistes travaillant sur la question, les vieux marxistes de l'époque... pas citer les noms parce qu'il mais il y en a un qui est toujours vivant, que j'aime beaucoup quand même, disons-le, c'est René Galissot, qui était bon, le marxiste classique, engagé bon, du côté du FLN, etc. Mais le problème qu'il ne voyait pas bien, c'est la place du religieux dans le nationalisme. C'est la place des liens personnels, intercommunautaires. Or ce qui est assez extraordinaire, que je pouvais constater, moi, en regardant tout ça, c'est qu'il y avait dans la révolution algérienne des transfuges, des passages de camps. Il y a des juifs d'Algérie qui étaient devenus des militants du FLN. Ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que dans l'histoire telle qu'elle était dite par les témoignages à l'époque, par les trucs, etc., il y avait deux camps. Mais on n'examinait pas les gens qui passaient d'un camp à l'autre de manière alternative. Ça, ce n'était pas étudié. Et tout d'un coup, je me suis souvenu que dans ma famille même, il y avait des gens qui étaient passés au FLN. Dans ma propre famille, je n'en parle pas dans le livre, parce qu'il ne veut pas qu'on en parle.
C'est le prochain tome.
Oui. Et ça, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que dans ma propre famille, les gens ne pouvaient pas rentrer en France parce qu'ils n'avaient pas été encore amnistiés. Et dont Roland Dumas était l'avocat. Et ça, je ne le savais pas. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, dans cette histoire coloniale, il y avait à la fois de la ségrégation, de la séparation, et en même temps des gens qui vivaient ensemble. Les gens vivaient ensemble et séparés. Et c'était cette dimension très compliquée, ensemble mais séparés, que j'ai voulu restituer. C'est-à-dire de regarder de tous les côtés en même temps et de ne pas privilégier un côté plutôt qu'un autre. Et c'est ce qui a fait que je suis allé vers la biographie plutôt que de m'enfermer, disons, dans les explications structurelles.
Justement, sur cet élément biographique qui traverse quand même une narration historique, qui nous donne à penser et à relire ces plus de 60 années depuis l'indépendance de l'Algérie. Pour certains, ce ne sera pas une surprise de dire que Benjamin Stora est cinéphile. Et vous convoquez la mémoire du film Amarcord pour dire « Je me souviens ». Et vous évoquez un certain nombre de repères cinématographiques dans votre formation émotionnelle, intellectuelle et personnelle. Alors, je vais vous demander un exercice un peu difficile. Si vous ne deviez choisir qu'un seul film pour parler de ces 10 années, 62-72, dont vous nous faites la narration ici, qui parle à la fois de votre trajectoire intime, de ce voyage vers la France inconnue, et en même temps, la construction de l'homme que vous êtes devenu par la suite. Un film qui raconte Benjamin le Français, Benjamin l'Algérien, qui vous a en tout cas touché.
J'en parle dans le livre. Je commence le livre par un film et je termine par un film. Parce que le film qui m'a le plus marqué dans le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est Les 400 coups de François Truffaut, qui reste pour moi un grand film, que je revois encore et encore, et qui est pour moi un très beau film. Alors je sais maintenant qu'on attaque Truffaut. Maintenant, ça arrive sur le malheureux Truffaut. Enfin bref, c'est la vie. Et puis, naturellement, le film par lequel je commence le livre, qui est en fait le film de Fellini à Amarcord. C'est-à-dire l'atmosphère méditerranéenne extraordinairement chaleureuse, des gens qui vont au cinéma, qui crient, qui gesticulent, qui mangent, qui commentent. Et tout ça, je l'ai vécu. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un univers du Sud, un univers de la Méditerranée à travers les films de Fellini et qui m'avait beaucoup plu. Voilà deux exemples, mais il y en a tellement d'autres. Il y a beaucoup de films.
Alors, il y a une belle filmographie tout au long de l'ouvrage. Donc, je ne vous en dis pas trop pour que vous puissiez le lire par vous-même. On peut applaudir Benjamin Stora.
C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.